C'est réellement une joie pour moi de vous voir tous. Que le Seigneur soit béni, vraiment, il est celui qui vit à jamais. Et alors, on a reçu un pasteur il y a peu de temps. Ce pasteur, c'était un Sud-Africain. Vous vous rappelez de ce qu'il a fait avec nous? Il nous a obligés à nous lever lorsqu'on entend la parole de Dieu. Par respect. Pour voir l'importance de cette parole. Ce n'est pas un accessoire de vie. C'est la priorité. Alors, je me permets de choisir deux textes. Vous voyez, la prédication est très prévue, très, très organisée. Stand up. Vous parlez anglais? Fantastique. Je voudrais lire Colossiens, chapitre 1, verset 11. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont sur les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Et le peuple répond, amen, amen, amen. Deuxième texte, dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes frères bien-aimés, mes sœurs, mettez en œuvre avec crainte et tremblement, portant la parole de vie au milieu d'une génération perverse et corrompue. Amen.
Amen.
Merci. C'est ce que nous essayons avec l'action missionnaire enfant. C'est ce que nous essayons d'apporter aux enfants dans tous les pays où le Seigneur nous a amenés. Et l'âge avançant nous permet encore d'aller bientôt au Burkina Faso. Donc c'est bien. Merci Seigneur pour ta grâce. Et merci parce que le message que je vais apporter maintenant de la part du Seigneur, c'est un message qui n'est pas forcément dans la lignée de ce qu'on a chanté dans la louange. Alors, je ne veux pas choquer les uns et les autres, mais c'est la parole de Dieu. Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Choisissez, faites votre tri, mais que cette parole agisse dans votre cœur. C'est la parole que le Seigneur a délivrée pour moi. Et j'avoue que depuis quelques semaines, c'était un poids, un fardeau pour moi. C'est ça, apporter le message de l'Éternel. Que ce soit un message de grâce, que ce soit un message de pardon, que ce soit un message d'allégresse ou un message de condamnation ou un message d'avertissement. Il y a toutes sortes de messages. D'une voix forte, d'une voix douce, d'une voix organisée, d'une voix qui n'est pas forcément organisée, la mienne, quoique. Mais c'est vrai, la parole de Dieu, elle doit retentir dans le cœur des enfants. Donc, dans notre cœur. Dès le départ. Merci pour la suivante, donc. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Je vais faire du bien à nos amis congolais. Où ai-je trouvé ce texte? Dans l'église La Borne à Kinshasa. C'est une église où nous avons été bien, très très bien accueillis par le pasteur qui est maintenant dans la présence du maître avec son épouse, Jacques Verneau et Johanna Verneau. Et c'était vraiment le titre de la radio congolaise, RDC. Et ça traversait, à tel point que les messages étaient donnés par la radio. Il n'y avait pas encore la télévision à ce moment-là. Et ça résonnait dans tous les pays. J'étais même surpris. Un jour, j'étais en train de prêcher à l'extérieur dans des quartiers très embêtant et très difficile, et je reçois un coup de téléphone, c'était un ami qui me téléphonait de Brazzaville. Il me dit, j'ai entendu ta prédication. La parole de Dieu, elle court. La parole de Dieu n'a pas de limite, elle n'a pas de frontière. Terre, terre, c'est à nous, Église de la rencontre, que cette parole est adressée ce matin. Alors effectivement, cette parole, on peut la présenter de différentes manières. Et ce matin, quand j'entends « Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel », c'est embêtant. Nous, Église, nous sommes venus entendre la parole de Dieu. Nous, Église, la rencontre, nous sommes attentifs à la parole de Dieu. Quoique, nous devons augmenter en sanctification. Nous devons laisser le Seigneur agir afin que ce texte-là a été donné à Jérémie. Ce n'était pas un encouragement, c'était un avertissement. Église, la rencontre, tu es sur la terre. Tu as les pieds sur la terre, tu as des projets sur la terre. Écoute la parole de Dieu. Elle prend la première place, n'est-ce pas? Alors que nous verrons par la suite que le Seigneur savait très bien que dès le départ, le plan n'était pas tout à fait le même. Parce que Adam et Ève, les premiers créés, ils ont failli. Alors, je ne jette pas la pierre à l'épouse, pas du tout, bien que ce soit elle qui s'est laissée tenter. Mais une fois, j'étais dans un pays de l'autre côté de l'équateur, et j'ai fait une réunion pour les hommes. Et je leur ai dit, où était Adam quand sa femme a été tentée? Alors, je ne parle pas de la soumission dans le sens négatif, mais de la protection de l'homme, du mari, quand il y a bien sûr harmonie, quand il y a une création équilibrée, tout à fait. Et ces hommes-là, bien, ils croyaient qu'ils étaient extraordinaires parce qu'ils entendaient la parole de Dieu. Et cette parole-là, c'est un avertissement. Nous savions que si nous n'écoutions pas la parole de Dieu, si nous n'obéissons pas, et ça y est, j'ai donné le grand mot, obéir, mettre en pratique, je mourrai, il y aura une condamnation. Et même nous, chrétiens, si nous lisons tout le Nouveau Testament, c'est pas facile à lire le Nouveau Testament. Il y en a qui ils ont supprimé plein de versets juste pour garder la grâce. Dieu nous a fait grâce. Alors il y en a qui ils ne pensent qu'à ça, alors ils demandent toujours pardon. Non, non, nous devons avoir une vie d'équilibre, de décision, d'obéissance. Allez, on continue dans la Bible. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on va trouver comme deuxième échec, entre guillemets, de Dieu, au niveau du texte biblique? Dites-moi. Vous avez le droit. Allez, hein. Alors bien sûr, il n'y a qu'un, d'accord. Laissons qu'un, c'était la conséquence, tout ça. Mais après qu'un, qu'est-ce qu'il y a eu? Revoyez vos textes bibliques.
Noé.
Ah, oui, il y avait Noé. Mais avant Noé encore? Avant Noé, Babel. Babel. Babel, les hommes connaissaient la parole de Dieu. Dieu parlait à la terre. Dieu avait déjà manifesté sa présence par la parole, puisque tout a été créé par cette parole, comme nous l'avons lu. Et tout lui a été soumis, les autorités, les trônes. Mais il y a eu guerre dans le ciel. Et comme notre frère Paul nous a dit un jour, et ça nous a surpris, au début de sa prédication, il nous a dit, nous sommes en guerre. On a regardé autour de nous, non, il n'y avait pas de bombes. On n'était pas dans un pays de destruction, quoique, il y a eu guerre dans le ciel. Il y a eu guerre et Satan a été précipité du ciel sur la terre. Il est le prince de l'air et la guerre continue. Nous sommes en guerre. Alors je sais que le message que le Seigneur me demande d'apporter n'est pas tout à fait en adéquation avec nos temps de louange, où on était là, ravis de bénir le Seigneur, de le louer ensemble, et c'est bien. Et c'est ce que nous avons à faire. Mais Dieu nous donne des avertissements. Parce qu'il nous aime. Il ne châtie pas pour le plaisir. Mais il veut nous amener plus loin dans notre démarche. Dans notre intimité avec lui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Personne n'aime recevoir une fessée. Mais le Seigneur nous donne parfois, après nous avoir avertis, n'est-ce pas, une petite fessée, une moyenne fessée, une grosse fessée. Oui, après, il y a eu Noé. Je suis d'accord avec toi, Barbara. Il y a eu Noé. Et Noé, qu'est-ce qu'il a? Il a entendu. Dieu lui parlait. Ceux de Babylone aussi, mais ils avaient dressé une tour pour être l'égal de Dieu, pour aller jusqu'aux cieux, prendre la place de Dieu. Égalité avec Dieu, l'égalité. Quelle idée farfelue, n'est-ce pas? Quel orgueil! Quel orgueil! Qui peut prendre la place de celui qui a tout créé? Ça nous ramène à notre dimension, nous sommes dans notre dimension de l'éternité, pas du terrestre. Et nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes comme des dieux, c'est-à-dire des gens qui vont évoluer, qui vont. Mais on n'est pas ces dieux de l'Antiquité, qui ont fait des choses absolument abominables dans toutes les mythologies et dans toutes les spiritualités, n'est-ce pas? Noé a entendu la voix de Dieu qui lui a dit « Je vais détruire la terre. Je vais enlever tout ça. Rentre, fabrique une arche. » Vous connaissez ces textes, n'est-ce pas? Vous les avez même enseignés à vos propres enfants, avec des images intéressantes pour qu'ils se mémorisent davantage. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, c'est ce que nous vous partageons. Alors, effectivement, Noé, il a entendu et il a obéi. Les ordres de Dieu sont des ordres clairs, nets et précis. Et souvent, on discute. Souvent, on relativise. « Oh, c'est pas pour moi. » Mais non, c'est pas le moment. Un peu plus tard, nous verrons dans la suite du message que ce n'est pas pour plus tard quand Dieu nous parle. Dieu nous parle au bon moment pour nous dire exactement ce qu'il nous faut à chaque instant. Alors effectivement, il y a eu même Abraham. Abraham, il a entendu un autre ordre. Et certains qui ont quitté leur pays d'origine, n'est-ce pas? Je pense à notre sœur Christina, qu'on accueille depuis peu parmi nous. Eh bien, elle a quitté son pays. Je vais t'appeler sœur Abraham. C'est difficile de quitter notre culture, notre monde, nos références, nos repères culturels. C'est très difficile. Qu'on soit, moi je suis français, c'est facile, nous on est des râleurs partout. Comment ? Vous êtes d'accord avec moi ? Alors là, je commence à râler. Effectivement, recevoir un ordre, oulala, on a les syndicats, on a les magistrats pour nous, non mais c'est pas possible. Noé, il a construit une arche. Et pendant tout ce temps, il avait peur, il avait la crainte de désobéir à l'Éternel. Mon frère, ma sœur, que nous soyons habités par cette crainte de l'Éternel, qui n'est pas une peur maladive, bloquante, mais qui soit une crainte respectueuse. Il a parlé. Il m'a parlé. Je dois agir. Je dois obéir à un ordre. Dieu, il ne donne pas des conseils. Il y a une traduction biblique que je ne vous conseille pas, donc je n'en parlerai pas plus, qui dit, non, la loi, ce n'est pas des ordres. Ce sont des conseils. Non, c'est clair, voilà ce que tu dois faire, ce que tu dois être, ce que tu dois mettre en pratique. Mais bien sûr, tu ne pourras pas, puisqu'il te manque cette nouvelle naissance, ce cœur changé, ce cœur transformé. Et nous savons que la loi n'est que le pédagogue, n'est que le pédagogue, bien sûr, pour nous amener à la grâce, au salut immérité. Merci pour la suite, s'il te plaît. Vous reconnaissez, non, c'est pas moi, j'ai taillé un peu ma barbe. Qui est-ce, d'après vous? C'est reconnaissable. Ceux qui ont déjà répondu, laissez votre place. J'attends. Allez, il y a des indications. Au-dessus. En dessous. Déchiffrer. Il faut apprendre aux enfants à déchiffrer l'image. Alors, dites-moi, il s'appelle Beau. C'est son nom. Sa mère l'a appelé Beau, elle l'a trouvé Beau. Et c'était son nom. Et après, c'est la fille de Pharaon qui l'a appelé Moïse, sauver des eaux. Et sauver des eaux, c'est toute une symbolique avec l'eau, l'humanité, bien sûr, pour qu'il aille au-delà, parce qu'il était le relais entre le ciel et la terre. Comme Jésus, il y avait déjà une forme de Jésus chez Moïse. Une typologie extraordinaire. Et alors, le peuple est resté en bas du mont Horeb, parce que Dieu a parlé à Moïse, de plusieurs manières. Mais ce jour-là, il lui a dit, tu as monté sur le mont Horeb, tu as monté dans le Sinaï. Vous connaissez ce texte par cœur. Vous l'avez lu, vous l'avez relu, vous l'avez médité, vous avez même vu le film avec Charlton Heston. Vous avez peut-être vu encore même, c'est extraordinaire, moi j'étais impressionné, j'étais tout gamin et je voyais ça, c'était extraordinaire. Je n'étais pas converti, mais j'avais une crainte. J'avais une crainte. Je dis, c'est pas possible, Dieu est comme ça. Et les tonnerres, le tremblement de terre. Et nous, quand il y a un tremblement de terre quelque part, tout tremble et tout le monde a peur et tout le monde sort de la maison et s'enfuit. C'était pire que ça. Il y avait des tonnerres, il y avait des voix du ciel qui se déchaînaient là-haut. Et le peuple avait reçu l'ordre de rester en bas. Alors un ordre était clair. Vous ne montez pas, sinon vous serez absolument éliminés. Vous ne pouvez pas aller dans ma présence. C'était déjà préfiguration, n'est-ce pas, de la venue de Jésus qui nous permet de faire tomber le voile et pouvoir aller dans la présence de Dieu. Et ce peuple-là, par crainte, par peur, cette fois-ci une peur viscérale, devant tout ce spectacle, ils ont laissé Moïse monter, seul, avec une partie de Josué. Mais c'est tout. À un certain moment, il fallait s'arrêter. Il n'y avait que Moïse qui pouvait être dans la présence même du Seigneur. À tel point qu'il était, avec ses paroles qu'il avait reçues, ses paroles, il avait mis un voile en redescendant. Tellement il était illuminé. Ça se voit, n'est-ce pas? Montrez-moi vos visages quand vous écoutez la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui est extraordinaire. Nous, on entend ces récits, et ça passe, ça rentre, ça repart. On les connaît par cœur. Il y a même des gens qui sont en train de monter des spectacles avec les 10 commandements. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le gars qui interprète Moïse. Moi, je n'aimerais pas du tout lui ressembler. C'est pas crédible. C'est du spectacle, il n'y a rien. C'est vide. Il n'y a pas la présence de l'Éternel. Il n'y a pas une obéissance à son ordre. Il n'y a rien qui transparaît. J'ai vu quelques extraits à la télévision. Eux, ils avaient une crainte. Moïse, il avait l'obéissance. L'obéissance pour savoir ce qu'il devait faire. À chaque pas, il était dépendant de Dieu. Oh, il avait bien discuté avec lui. Non, mais je ne sais pas parler, ma langue est bizarroïde. Tais-toi, je t'ai déjà envoyé ton frère. Il est en route pour toi. Alors vous pouvez croire, chacun, frère et sœur, vous pouvez croire que ce que Dieu vous demande de faire dans sa parole, en lisant la parole de Dieu, ce n'est pas pour vous. Eh bien oui. Mais je n'en suis pas capable. Mais je ne vais pas pouvoir prêcher comme Alain. Ben, tant mieux pour vous des fois. Mais non, je ne peux pas prêcher comme Paul. Je n'ai pas une connaissance biblique assez forte, assez puissante, assez structurée. Quoique. Et si Dieu vous le demande, vous allez commencer à discuter. Dieu parle, nous devons lui obéir. Nous devons avoir une crainte respectueuse de sa parole. Cette crainte, moi, je ne l'avais pas au début. Enfin, pas tout à fait au début. On va dire au premier tiers de ma vie chrétienne. Pour moi, c'était formidable, j'étais à l'église, puis c'est tout, quoi. Et puis, petit à petit, ce respect de Dieu m'a envahi. Et c'est extraordinaire, ça. Les coups de tonnerre, la terre qui tremble, le feu, c'était les trompettes qui retentissaient. Mais vous imaginez, déjà nous, quand on a un petit orage à la maison, c'est arrivé chez nous, cette nuit, moi, c'est pas grave, je ne me réveille pas. Mon épouse s'est réveillée, elle a fermé toutes les fenêtres. Elle a été voir les plantes. On est craintif, négativement. Et tant mieux, c'est de la prudence. Mais là, devant la parole de Dieu, comment on réagit? On se dit, bon, ben d'accord, je relis, c'est dans mon plan de lecture, je relis le... Oui, c'est bien, pourquoi pas, mais... Ouf. Je me souviens, Paul, encore, quand il avait lu les chroniques, il nous avait raconté un matin... Je suis en train de lire les chroniques suivant le plan de lecture. C'est long. C'est pas forcément passionnant. C'est vrai que ce n'était pas passionnant, mais quand on étudie les chroniques, c'est une source d'enseignement extraordinaire. Fils de. Ça va même jusqu'à fils de Dieu. Fils d'Adam, fils de Dieu. Jésus était fils de Dieu. La révélation pour l'apôtre Pierre. Tu es le fils de Dieu. Nous avons eu la révélation du fils de Dieu les uns et les autres. D'une certaine manière, à une période que nous ne descendions pas, l'église de la rencontre, l'exigence de l'application de la parole de Dieu dans nos vies. Moïse savait aussi que le peuple désobéirait, que le peuple se détournerait. N'empêche qu'ils sont sortis d'Égypte. Jésus sait très bien qu'à la rencontre, on n'est pas des gens parfaits. Surtout moi. Et moi, oser apporter un message comme ça, n'est-ce pas ? Ça m'interpelle. Bon, je suis pas parfait. Je me regarde et je vois les tâches qui sont sur mon cœur. Et je compte sur sa grâce. Si je vis, je ne veux pas entendre mon Dieu me dire « Vos louanges me sont une abomination. » Ça peut arriver, n'est-ce pas ? Vous vous louez, ben oui, c'est l'habitude, et puis vous avez des belles paroles, j'ai des paroles de charme qui bouillonnent dans mon cœur. Alors on y va, et puis on va demander pardon, et puis ça fait... Voilà, on a pris des habitudes de louange et de prière. Ça n'a rien à voir avec l'inspiration de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'obéissance à l'Esprit de Dieu qui doit être cohérent dans un culte. J'entends pas beaucoup, amen.
Amen.
Mais j'aimerais terminer ce moment avec Moïse. C'était ma prière quand j'ai relu tout cela. Seigneur, je suis là pour t'obéir. Je suis là pour t'obéir. Je ne suis pas là pour me faire plaisir une fois de plus. Je ne suis pas là seulement pour que tu me guérisses. Je ne suis pas là seulement pour que tu me trouves du travail. Je suis là pour t'obéir.
Amen.
Qu'est-ce qu'a dit Jésus à Gethsémané ? Je veux faire ta volonté. Alors que c'était le plus difficile. Il était cette fois-ci réellement mis au niveau de l'humanité. C'était fini le temps des miracles. Il ne pouvait pas se détacher de sa croix. C'était son ministère, le sien. Dieu ne me demande pas de jouer comme au Brésil à la crucifixion en étant attaché par des ficelles, avec des processions. Non, ça c'est un symbolisme traditionnel. La suivante, s'il te plaît, donc. Ah, ben là, vous les reconnaissez. Je continue l'ordre logique, n'est-ce pas ? Dans la Bible. C'est un peu comme Étienne, quand il a raconté plein de choses, il commençait... Alors, tout le monde l'a écouté jusqu'au moment où il a dit qu'il avait vu Jésus, quoi. Que Jésus était le chemin, la vérité, la vie. Dites-moi le nom. Le nom de celui qui est tout en haut. Encore une fois, un barbu. Allez. Je vous donne une indication. Lui, il est en train d'écrire. Et vous connaissez la Bible. Vous lisez la Bible. Ah, ça dépend peut-être. Je vous laisse encore un petit peu chercher. Mais vous lisez, alors je ne parle pas pour ceux qui viennent de se convertir, ceux qui ont moins de 70 ans. Plus de 70 ans, ça y est, on connaît notre Bible à peu près. Mais trop souvent, le chrétien moyen que nous sommes, que je suis, eh bien, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de lire la Bible. On travaille, on a des enfants, n'est-ce pas ? On est pris par l'emploi du temps. On ne vient même pas aux réunions de prière. On ne vient même pas à l'étude biblique. On ne peut pas. On est pris par toutes ces contingences. Alors on lit une pensée biblique. Une pensée qui nous prend deux... Allez, c'est même écrit sur Internet, une minute. Le temps de lecture, c'est une minute. Mais vous êtes des sous-alimentés spirituels. Oh, mais c'est pas de ma faute, j'ai pas le temps. Je suis pris par mon travail. Combien de témoignages j'ai entendu de jeunes qui disent « Je suis devenu chrétien parce que j'ai vu mon père lire la Bible. » Lire la Bible. La Bible, mon frère, ma soeur. La Bible. Pas un prêcheur pris sur Internet. la Bible. Alors c'est vrai que des fois, il faut rendre les choses un peu plus agréables humainement, avec une louange, en bougeant un peu, avec des exemples, des applications, etc. Mais il y a un équilibre. Je suis un peu réputé dans notre église, n'est-ce pas, comme un plaisantin des fois. J'aime rire. Mais je vous assure que j'aime sourire, même quand je prêche, mais clairement, il y a des moments où le Saint-Esprit me dit « Stop, tu vas maintenant, non, tu t'arrêtes. C'est ma parole que tu délivres. » Alors, il faut trouver cet équilibre-là, effectivement. Mais nous sommes en guerre. Et cette guerre-là, ils étaient dedans. Lui, il s'appelle Baruch. Baruch, enfin, vous connaissez. Il a écrit tout ce que lui disait. Pas Isaïe. C'était pas le même secrétaire pour Isaïe. Lui, il s'appelle Jérémie. Et je vous avoue, quand j'ai lu, quand j'ai relu, quand j'ai médité Jérémie, mais j'étais en état de choc, je n'exagère pas. J'étais cloué. Et je me suis dit, c'est pas possible. Tout ce qu'il est en train de dire, à tel point qu'il y a plein d'épisodes que l'on connaît, on va donner quelques-uns, mais le peuple a refusé la parole de Dieu. Le peuple choisi par l'Éternel, moi, j'ai été élu, choisi, mis à part. Et j'ai les mêmes attitudes. D'une autre manière, j'ai les mêmes réactions. J'étais non pas écroulé, parce que moi la grâce me suffit, dans l'état de faiblesse dans lequel je suis, mais j'étais impressionné de l'entêtement diabolique qui était venu sur le peuple choisi par l'Éternel. Et l'Église de Jésus-Christ, l'Église, parfois, la rencontre, n'est-ce pas, qui fait partie de l'Église universelle, réellement, nous ressemblons à ce peuple. Nous sommes des gens intellectuellement instables, spirituellement instables. Oui ou non? Des fois, non, répondez pas. C'est qu'on veut la bénédiction, on veut être guéri, on veut le boulot, on veut qu'il n'y ait pas de divorce, on veut que ceci... Tout ça, c'est des sentiments. Mais premièrement, je veux faire ta volonté. Moi, je ne voudrais pas avoir été choisi comme Jérémie pour être prophète pendant 41 ans, où il a dit des choses terribles sur le peuple. Vous allez partir à Babylone. Tout ce que vous faites, c'est abominable aux yeux de Dieu. 41 ans, vous imaginez la patience de l'Éternel avant de mettre en application. Oui, il y a la patience de Dieu, mais quand les jugements sont là, Dieu l'a prévu, Dieu va agir, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Nous sommes prisonniers de son amour, parce que nous sommes rentrés dans son obéissance à ses ordres. Et c'est extraordinaire. Moi, j'avoue que Jérémie, il a connu des épisodes, n'est-ce pas ? Il était avec le roi Sédécias, ça vous dit quelque chose ? Et Sédécias, il n'a pas voulu lire. Il a écouté, mais il ne s'est pas opposé à ce qu'on mette Jérémie en prison, même dans une citerne. Vous connaissez le nom de cet Éthiopien qui est venu pour délivrer notre cher Jérémie de la citerne. Il lui a même mis des chiffons sous des bras. Allez, Ebed. Je le sais, ce que je l'ai relu. D'où l'importance de lire et de relire. Je savais bien qu'il y avait un Éthiopien dans l'affaire. On dirait peut-être même que c'est le premier converti noir. Quoique Moïse. On discute encore de la couleur de la peau de Moïse, puisqu'il a épousé quelqu'un du bas. Du sud. Enfin bref, ça c'est des petites questions de théologie. Vous êtes des théologiens? Vous chipotez les interprétations? Restez au texte. C'est bien de réfléchir, c'est bien de discerner, mais il y a un moment, on balaye tout ça. Il est écrit. Il est écrit. Alors puisque c'est écrit, j'alimente ma foi, j'alimente la foi de l'Église par la parole de Dieu. Et je veux rendre un hommage solennel à Paul et à Véronique, parce que nous sommes non pas sous-alimentés, mais suralimentés. ou alimenter ce qu'il faut pour porter des fruits à sa connaissance et à sa gloire. Alors, des fois, c'est vrai qu'on peut être fatigué d'entendre des études, d'avoir des renvois anciens et nouveaux testaments, mais ça, là, c'est la nourriture. Oui, je veux. Non, je ne veux pas les haricots, j'aime pas. Oh non, non, mais, oh, j'en ai déjà mangé. Ah non, non, ça me fait vomir. Oh, on est où, là? C'est la parole de Dieu. On peut aller dans des églises où on saute en l'air tout le temps. Nous, ce n'est pas notre cœur. Alors, on peut, chaque église a sa personnalité, a son onction. Mais la parole de Dieu, elle est là. Et cette parole de Dieu, c'est l'alimentation parfaite. N'est-ce pas, donc? Amen. C'est bien, je prends les jeunes maintenant avec moi. C'est bien. Alors, Jérémie, il me faisait penser à une expérience que j'avais faite. Ce n'est pas pour me citer un exemple, loin de là. Hein. J'étais avec des gamins entre 15 et 20 ans dans un centre éducatif qu'on appelle aujourd'hui des centres éducatifs fermés. Donc des gros loulous, que des garçons. Donc c'est bien, j'avais une certaine autorité, ça passe, hein, j'étais enseignant là-bas. Mais j'étais là-bas comme témoin de l'Évangile. Témoin de l'autorité de l'Évangile. Témoin de la puissance de l'Évangile. L'Évangile, ça commence à la création, n'est-ce pas? C'est pas seulement les Évangiles à partir du Nouveau Testament. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a créé pour. Et très tôt le matin, j'ouvrais ma Bible, à ce moment-là, et maintenant aussi, et Dieu me dit, ils te feront la guerre. Ne les crains pas. Je suis avec toi pour te délivrer. C'est dans Jérémie. Et je me suis dit, oulala. Pour moi, c'était une flèche que le Seigneur m'adressait. Un avertissement, un casque, toutes les armes dont on a parlé avec Éphésiens. D'ailleurs, le casque, tu t'allais très bien, Paul. Je l'ai vu sur l'écran. Très bien, très bien. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Ça n'a pas tardé, c'était immédiat. J'entre dans cette cage aux fauves, qui est ma classe, qui était ma classe, et immédiatement, il y a un gars qui me déclare la guerre. Pas à moi en tant qu'individu, à ce que je représentais. C'était le plus terrible du centre éducatif. Et il est venu, il m'a provoqué. Il y avait un silence de mort dans la salle de classe. Les gars attendaient comment j'allais réagir, si j'allais m'écraser ou pas. Mais là, j'avais l'autorité de la parole. Je suis quelqu'un qui peut exercer une forme d'autorité, c'est vrai. Mais quand on est avec, en mission entre autres, comme ce matin, eh oui, nous sommes en mission, eh bien, on a une autorité supérieure à notre autorité naturelle. Cette fois-ci, on est revêtu des armes. Toutes. Et on avait l'arme de l'épée, l'arme du combat. Comme David, mais parce que Dieu m'a renvoyé et Dieu j'ai la victoire. Souvenez-vous encore de cette prédication de notre frère sud-africain, il disait le dernier, enfin, parmi les ennemis, la peur, la crainte. Alors je n'ai pas peur, je n'ai plus peur. On l'a chanté, on l'a rechanté, on l'a redit, on l'a redit ce matin. Mais il faut avoir l'autorité de l'esprit. Sinon, tremblez, fuyez. Vous allez être écrasé parce que vous n'êtes pas à votre place, ni au moment où vous devez agir. D'où l'importance d'être revêtu de l'armure spirituellement. Amen, amen. Et là, j'ai pratiqué ce que le Seigneur m'a dit de faire et de dire. Ce gars qui m'a cherché, pour prendre le langage des gars, il ne savait pas à qui il s'adressait. Il était inconsciemment dirigé par un esprit mauvais. Il a fallu que je mette les choses au point. C'était le gars le plus terrible du centre éducatif. C'était le patron. Tous les adultes avaient peur de lui. Ils s'écrasaient devant lui pour ne pas avoir d'histoire. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit à ce jeune, je serais en prison. Ben parce que ce n'était pas possible. On ne touche pas. C'est quoi l'autorité? C'est quoi l'autorité de Dieu? un ordre et une obéissance, ça va ensemble. Non pas par peur, crainte, maladive, mais par respect de l'autorité que je reçois par la parole de Dieu. Pas d'avoir lu la parole, pas de pouvoir raconter la parole. Reçu par la parole, pour l'exercice de la parole. Et ça change tout dans ma vie de chrétien, ça change tout pour une vie d'église. C'est pour ça que je ne suis pas pasteur. Parce que les pasteurs, ils doivent avoir beaucoup plus de patience que moi. Ils élèvent tranquillement, en respectant les moments de croissance, les moments de difficulté. Ils sont peut-être plus compatissants. Il faut trouver cet équilibre entre l'autorité et l'obéissance. Et voilà ce que ce matin, Dieu me met à cœur de vous partager. Ils te feront la guerre. Si c'est pas possible, qu'est-ce qui va encore m'arriver? C'était pas la première fois. Mais Dieu m'avait placé dans ce centre éducatif pour que l'autorité soit rétablie par un de ses serviteurs. J'étais enseignant, prétexte. Et tout le monde après, les gars de la classe sont venus me voir, les profs sont venus me voir. Ils me disent, ce gars-là, il nous a fait peur tout le temps. L'autorité de Dieu. Trône, domination, puissance, sont sous son contrôle. L'épisode de la citerne, vous connaissez, je vais en parler. L'épisode de la branche d'amandier, ça vous dit quelque chose? Oui, bah, c'est bien. Vous allez relire Jérémie. Hein, c'est dans le chapitre 20 même. Parce que le problème, Jérémie, il a reçu l'ordre véritablement de sa mission. Moi, je n'aurais pas aimé être choisi par Dieu pour être Jérémie. Non seulement à cause des 41 ans, on a voulu le tuer, on l'a mis en prison, on l'a mis au fond d'une citerne, il y a eu plein de problèmes, vous allez les lire, mais en même temps, Dieu lui a donné la vision de la branche d'amandier pour que ses jugements soient maintenant immédiats. Alors je vous laisserai découvrir pourquoi c'est une branche d'amandier. Et Jérémie disait, mais Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu vois, une branche d'amandier? Un dialogue dans la révélation. Et ce dialogue, c'est notre partage. On n'est pas non plus des, passez-moi l'expression, des bœufs, où on doit marcher à coups de pointe dans les fesses pour avancer. C'est pas ça. Nous sommes dans un dialogue, mais nous sommes courbés devant sa décision. Tu m'envoies, mais j'ai peur. Oui, c'est normal, parce que tu vas avoir des gens contre toi. Tu seras mis en prison, on te massacrera. Et il a terminé en suivant le peuple en Égypte. Parce que Nebuchadnezzar lui a laissé la vie sauve. Tant mieux. On connaît l'épisode de la maison du potier, n'est-ce pas? La maison du potier, c'est bien avec les enfants. On fabrique un petit potier avec un petit tour, n'est-ce pas? C'est sympa. Et puis les parents, à la fin du moment biblique où on accueille les enfants, j'ai entendu, hein, je n'ai pas inventé. Nous, on annonce la parole de Dieu aux enfants, clairement. Et les parents, quand l'enfant il sort de la salle d'enseignement pour les enfants, vous avez bien joué? Mais on n'a pas joué. On a fait des choses qui mettaient en pratique la parole de Dieu, qui étaient un support à l'enfant. Mais est-ce qu'on a apporté à l'enfant une crainte, un respect, une obéissance? Où on a dit, ben voilà, tu vois, si même un jour tu fais un pot, ben, tu jettes par terre, il ne te plaît pas, ben, c'est pas grave, quoi. Tu en fais un autre. Oui, mais avant, on n'en refait pas un autre. C'est important la transmission à l'enfant, la manière dont on transmet cette autorité de Dieu. Moi, j'ai aimé dans beaucoup de pays africains où nous avons été, avant l'école du dimanche, au début de l'école du dimanche, il y a un temps de prière. Les enfants savent que Dieu va parler. Et ça, c'est important. Ce n'est pas simplement le moniteur qui est sympa, n'est-ce pas? Et il se passe des choses extraordinaires. Deux enfants de 13 ans ont été baptisés dans le Saint-Esprit au Togo, dimanche dernier. Le frère me l'a annoncé par WhatsApp. Je trouve ça extraordinaire. C'est un frère de notre équipe, de l'AME Togo. Il porte des fruits, je n'y vais plus, heureusement. L'équipe est bonne, l'équipe est forte, l'équipe a été enseignée, formée. Mais la parole de Dieu, elle est annoncée avec force, puissance, autorité. Et ça, ça donne du fruit.
Amen.
Ça donne du fruit. Notre ami Jérémie, je vais passer un peu, on va passer maintenant au suivant, si tu veux bien. On va passer dans le Nouveau Testament. Ouf. Enfin la grâce. Enfin la grâce. Mais il y avait la grâce, parce que chaque fois, Dieu disait, mais si vous revenez de vos mauvaises pensées, si vous revenez à moi, j'annulerai les jugements. Le peuple ne revenait pas. Ils passaient même, je continue Jérémie, ils passaient même leurs enfants par le feu, aux idoles. Ça n'avait jamais été dans le plan de Dieu. Ils avaient même mis les statues de Baal et les Astarté dans la maison de Dieu, à Jérusalem. Parfois, il y a des églises qui font la même chose. Même évangéliques et chrétiennes, j'ose le dire parce que je suis témoin, j'ai entendu, j'ai vu de mes propres yeux et de mes oreilles. Parce que le peuple de Dieu, c'est un peuple inconstant, c'est un peuple crédule dans le mauvais sens du mot, qui ne va pas vérifier dans le texte biblique ce qui a été annoncé, comme les gens de Béré l'ont fait. Alors c'est vrai qu'à l'âge où nous sommes arrivés, avec l'expérience que Dieu nous a donnée, nous avons mûri, nous avons pris un peu d'envergure. On n'est plus ces jeunes chrétiens qui disent « Oh, Seigneur, ta grâce me suffit, c'est formidable. » Il faut aller au-delà. Il faut découvrir l'Église comme elle l'est. Et c'est pour ça que j'honore encore Paul et Véronique. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Déjà ça, on ne comprend pas. On ne comprend pas, c'est incompréhensible. Comment ça c'est Jésus qui a créé, mais alors c'est pas possible. Il est, oui, avant qu'Abraham soit, moi je suis. Ah, on a une explication, d'accord. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Nous affirmons, Église, que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Restons-nous dans la lumière? C'est la question, parce que je ne veux pas ressembler au peuple choisi par Dieu. L'Église, elle est aussi choisie par Dieu, pour refléter la gloire de celui qui a tout créé. Que ce message de ce matin, qui n'est pas tout à fait en adéquation avec notre temps de louange, j'allais dire d'extase sympathique, est véritable. Et tant mieux. Mais ce message, il contraste. C'est un contraste d'avertissement. C'est un contraste de rééquilibrage de ma vie chrétienne. Alors, il est évident qu'en lisant ce verset, j'ai repensé à un épisode que moi aussi j'ai connu. Désolé de parler de moi. J'étais quelques petites années après ma conversion et je disais, mais Seigneur, tu m'as tellement parlé ces derniers temps, tu ne me parles plus. Pourquoi? Pourquoi tu ne me parles plus? Oh, la réponse a été immédiate. Parce que tu ne lis pas la Bible. J'avais pas le temps. Alors je prenais les ersatz, effectivement, une petite pensée biblique pour me donner une bonne conscience. Mais pourquoi tu ne me parles plus? Alors c'est vrai, Dieu peut parler avec un mot, c'est vrai, mais le temps passait. Mon frère, ma sœur au Luxembourg, vous n'avez pas de temps. Prenez le temps. Prenez le temps de mettre la parole en première place. Je n'ai pas le temps d'aller à l'étude biblique. Eh bien, arrange-toi et viens à l'étude biblique. Notre fille, dernièrement, pour ne parler que de nous, nous a dit, papa, quand j'étais gamine, quand je me levais pour aller à l'école, je te voyais assis sur un fauteuil, tu lisais la Bible. Ah oui, nous sommes un exemple pour les autres. Et il y avait une autre femme dans une autre église, qui a dit un jour, elle était d'arrière-plan musulman assez fort. Elle s'était mariée avec un occidental. Et elle nous a dit, en témoignage, « Quand je vois mon mari lire la Bible, ça me rassure. Je sais qu'il ne sera pas comme ceux de mon pays qui sont dans l'islam. » L'importance d'avoir un texte, lui, que ce soit le téléphone avec la Bible online, n'est-ce pas, ou que ce soit le texte lu, ou que ce soit le texte même dit, si on est sourd, enfin, non, pas sourd, aveugle. Alors, je voudrais aller plus loin maintenant. Vous avez encore le temps? Ça va. Il ne me reste plus qu'une heure, 1 heure et demie. Mais vous connaissez les récits, Jésus? Allez, dites-moi ce qui s'est passé en haut. Allez, vous connaissez la Bible, vous l'avez lue, vous la connaissez par cœur. Il y a Jésus, c'est Jésus hein, quand même, là, qui est debout. Puis il y a une dame qui vient, qui touche sa robe. Alors, tu l'as dit? Allez, vas-y fort. La femme à la perte de sang. Elle était impure en plus. Elle n'avait pas le droit de sortir. Elle est sortie. Elle a entendu que Jésus passait. Elle a été voir. Elle s'est faufilée derrière lui. Elle fut guérie immédiatement. Aussitôt. Et j'attire votre attention sur le aussitôt. À l'obéissance, aussitôt. Dieu montre qu'il agit aussitôt, qu'il donne un ordre, qu'il donne un conseil, qu'il donne une direction de vie, aussitôt. Et nous délayons notre décision. C'est aussitôt que nous avons à mettre les choses en place. Certains vivent des combats difficiles, je le sais, dans l'Église même. Mais vos choix sont des choix aussitôt. Et vous avez donc la victoire. Parce que vous êtes revêtu de cette autorité de la parole. Perte de sang, elle a été délivrée. Et Jésus s'est retourné, j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Une force. La puissance de l'Esprit de Dieu, alliée à la puissance de la parole, parce qu'il était dirigé dans la volonté du Père. Il y avait l'unité, la plénitude de Dieu qui se manifestait là. C'est fantastique de lire, de relire. Moi, je connais, oui, ça fait... Combien d'années elle était malade?
12 ans.
Wow, vous êtes meilleur. Là, vous êtes extraordinaire. Très bien, 12 ans. Elle a entendu que Jésus était là. Et je répète cette expérience. J'étais, c'était où, je ne sais plus, en RDC. Non, c'était en RCA, Francine. De Félicien. Félicien, on était sur la pirogue. Rappelle-toi, c'est bien son prénom? Ah ouais, Félicien. On était sur la pirogue, on allait voir les pygmées. Et Félicien nous a raconté qu'un jour, il y a quelques années, c'est vrai, hein, extraordinaire, sur la pirogue, il disait, j'étais paralysé. Et il y a eu une mission où on annonçait la parole de Dieu. 4 amis! Ça vous rappelle des textes bibliques, n'est-ce pas? 4 amis m'ont pris, ils m'ont amené. Moi, je disais, bon, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai entendu la parole de Dieu par ce frère qui prêchait. Et il a parlé de la femme à la perte de sang. Il n'a pas commencé à raconter tout ce... Non, la femme à la perte de sang. La puissance dégagée par la parole de Dieu. Et à ce moment-là, il a dit, je veux aller à la prière parce qu'il y a le temps de la prière. Mais je ne peux pas. Alors, il a fait, c'est ce qu'il nous a raconté, il a fait comme la femme à la perte de sang. Spirituellement, il a touché le bord du vêtement de Jésus. Instantanément, aussitôt, il a été délivré de sa paralysie, qu'il avait reçue en malédiction depuis des années, des années, des années. Il s'est levé. Et à ce moment-là, voilà un miracle. Il est encore vivant, ce gars. Et il voulait devenir le meilleur prédicateur, le meilleur enseignant, tout ce qu'on voulait. Il était très, très intelligent, très doué. Et il a fait l'institut public, etc. Et il a posé la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu vas aller dans la forêt et tu vas prêcher aux pygmées. Oh ben, c'est pas ce que j'aurais voulu, moi. les pygmées, c'est... Non, non, je veux un institut public avec toute la connaissance que j'ai maintenant. Je peux faire des études publiques, apporter les nouveaux, les étudiants à un autre niveau. Les pygmées. OK. Et ce gars, ce pasteur, ce missionnaire, il était au milieu de la forêt équatoriale, et à 5 heures du matin, avant même que le soleil soit levé, il avait les bras levés. Et il bénissait l'Éternel. Et les petits pygmées, c'est difficile à dire autrement, hein, les petits pygmées, sortaient de la forêt et venaient se joindre à lui. C'était extraordinaire. Il était dans la volonté de Dieu. L'autorité était la soumission à la volonté de Dieu, à la soumission à la parole de Dieu. Aussitôt, il l'a fait. Oh, il a discuté un petit peu, comme Moïse tout à l'heure, mais pas longtemps. C'est ça que je veux comprendre. C'est ta destinée. Notre destinée, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Afin que la parole de Dieu soit obéie, mise en pratique. Aussitôt, je te bénis, sœur, d'avoir parlé en langue. Je te bénis parce qu'il y avait cette poussée de l'esprit en toi. Vas-y! L'esprit est soumis à l'esprit, c'est vrai, à notre esprit. Soyons dans l'équilibre. Mais laissons le Saint-Esprit agir au milieu de nous. On rêve de voir des miracles. On rêve de voir des guérisons. Alors laissons-les se faire. Je n'engage que moi. Amen, amen.
Amen,
amen. Amen. Dans Marc, chapitre 30, c'était la femme à la perte de sang. Je continue. Marc 1. Ça vous dit quelque chose, Marc 1. Pour nous, on est toujours avec des références. Heureusement que Paul, il a mis les références, mais il nous explique ce qu'il dit. C'était la guérison de la belle-mère de Pierre. Alors, est-ce que c'était avant d'avoir choisi des disciples ou pas? Grosse question théologique, la chronologie du ministère de Jésus. Alors, on peut passer 5 heures à étudier les chronologies. C'est sûr, enfin 5, même plus des fois. Jésus a entendu qu'on lui parlait de la belle-mère. Il est venu voir la belle-mère. Il a prié pour elle. Et la conséquence, elle fut guérie à l'instant. Elle se leva et elle le servit. Nous sommes appelés à son service. C'est ça les disciples. Nous sommes appelés à servir le maître, chacun à notre place, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Avec la faiblesse qui nous caractérise, ou l'autorité, c'est trop facile de prêcher dans une église qui écoute. Mais dans Jérémie, c'est l'autre anti-exemple. Alors, je vous dirai également l'appel de Pierre, d'André, de Jacques et de Jean. Aussitôt, ils quittèrent leur filet. Aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père. Aussitôt, comme Abraham. D'accord, il s'est fait un petit peu retarder à cause de Terach, son papa. Ça, on lit le texte. Mais il a accompli, il a quitté le territoire dur. Parce qu'il y avait les faux dieux. Il ne pouvait plus rester là. Et il a fait des choix clairs et nets. J'ai tellement de choses à dire sur ce point-là. Je préfère bloquer. On a reçu l'autorité. On voit l'autorité se manifester avec Jésus, n'est-ce pas? Donc là, c'était la belle-mère de Pierre. Et continuons sur la suivante. Jésus marche sur les eaux. Et puis il y a l'épisode de la tempête. Et puis il y a l'épisode de Jésus qui avait dit « Allez de l'autre côté du lac ». Alors, on les connaît, ces textes-là. On les raconte à l'école biblique, on les raconte aux enfants. Et les enfants disent, c'est formidable. Oui, Jésus, il est comme Spider-Man. Eh, c'est pas Spider-Man. On a baissé le respect dans la pensée, le cœur de l'enfant avec tout ce qu'il voit et ce qu'il entend. Il est à l'âge du héros, il est à l'âge de la force, il est dans l'âge de l'important. Disons-lui, non, Spider-Man, c'est une invention. Spider-Man, il y a eu une araignée qui l'a touché, et puis c'est pour ça que maintenant il fait l'araignée. Quoi. Je connais, moi j'ai regardé Spider-Man. pour le détruire. Pour le détruire, quand j'enseigne aux enfants, je détruisais tout cela. Parce que Jérémie, dans ce qu'il a entendu par le Seigneur, tu annonceras à ce peuple que je vais l'abattre. Que je le détruirai. Nous sommes dans un monde où nous avons à abattre les murs de l'ennemi. Abattre. Puis ensuite, la deuxième partie de la prophétie à Jérémie, c'était « Je construirai, je restaurerai. » Ce n'est pas du jugement pour du jugement. Ce n'est pas la vengeance de l'Éternel, ad vitam et presque aeternam. Non, c'est les jugements de Dieu. J'ai beaucoup aimé aussi Paul, dernièrement, nous dire « Nous sommes dans les jugements, qui seront dans les jugements sans doute écologiques plus tard. » Oui, il y a la guerre en Israël, d'accord, ça, moi ça me fait peur. Heureusement je lis la Bible. Les nations s'assembleront contre. Je suis en train de le lire, ça, et en train de le voir. Les différentes nations qui s'opposent maintenant à d'accord, l'humanisme, j'allais dire catholique, l'humanisme païen. Aimons-nous les uns les autres. Soyons frères les uns pour les autres, soyons sœurs. On ne peut pas permettre ça. Et Jérémie, pareil, on le met à la poubelle. Nous avons, nous aussi, à dénoncer les choses. On n'est pas seulement des gens qui veulent dire, oh ben on n'est pas trop d'accord, non, non, nous, on préfère aller à l'église. Et puis écouter la parole de Dieu. Mais des fois, il faut appeler un chat clairement établi. Ah, ça va nous attirer peut-être un renvoi, peut-être... Oui. Je ne vous raconte pas ma vie, mais j'ai vécu ces temps-là. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Si on me tue, mais tant mieux, je serai plus vite au ciel. J'ai pas peur, parce que j'ai l'autorité de Dieu et j'ai l'obéissance de la parole. Regardez cet enfant, je le rencontre en Algérie. Il ne savait ni lire ni écrire. Ses parents savaient qu'ils avaient quitté comme religion. La Bible. Et l'enfant, il savait la Bible. Il savait que ce qu'on lui racontait, c'était la parole de Dieu. Les jeunes couples, n'hésitez pas à lire la Bible à votre enfant. Pas seulement avec les images qu'on fait actuellement, qui viennent des États-Unis, des fois des représentations un petit peu limites. C'est un peu trop gentil. Un peu trop. Mais au moins, que la Bible soit avec des hommes et des femmes de leur temps. Et pas seulement des... Ah oui, mais ça fait plaisir aux enfants. Non, non, non. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu représentée par Jésus. Pas par des illustrations un petit peu gentillettes. Mon frère, ma sœur, si je vais un peu plus loin encore, je suis heureux d'avoir cette parole de Dieu. Parce que j'ai le Saint-Esprit maintenant. On l'a dit tout à l'heure, je ne vous laisserai pas seul, n'est-ce pas? Oui, le temps des jugements n'est pas fini. Il faut aussi qu'on l'entende. Mais nous avons le Saint-Esprit qui nous avertit, qui nous rappelle à l'ordre, qui nous encourage, qui nous fortifie. Comme notre ami Josué, il était fortifié, va, fortifie-toi et prends courage. Tu vas aller au-delà de catastrophes, il y a des armées qui vont venir contre toi. Mais il y avait un Moïse qui priait. Et je sais que Paul et Véronique sont des gens de prière. Et la prière, elle nous convainqueur. Et de nous transmettre ça, c'est bien. C'est bien. Est-ce que vous avez déjà été, je conclue, ça rassure tout le monde quand je dis je conclue, j'en ai plus que encore pour 30 minutes. Vous connaissez? Vous avez été à Jérusalem? Qui n'a pas été à Jérusalem? Bon, alors, c'est la double porte La double porte. C'est la seule double porte de toutes les murailles. Elle se trouve à l'est. Et c'est par cette porte-là que Jésus est entré avec le petit âne. Et toute la foule était là. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Voilà le Messie qui vient régner, fiche en l'air, vaincre les Romains, les occupants, les tyrans, ceux qui nous ont apporté les faux dieux. C'était pas ça. Il est venu pour accomplir la prophétie, Zacharie 9:9. Voici ton roi vient à toi, monté sur le petit d'une ânesse. Et ce petit d'une ânesse, il fallait qu'il soit délivré. Il était attaché, rappelez-vous, sur le chemin entre Béthanie et Bethphagé. Tout ça, c'est raconté dans la Bible. C'est pas seulement un livre d'aventure, n'est-ce pas? Chaque détail a son importance. Peuple versatile. Ils criaient et ils sont condamnés. Parce qu'ils n'étaient pas exaucés dans leur attente personnelle, même de peuple. Dans la partie est, il y a un cimetière. Et tout près de cette porte, qui s'appelle aussi la porte de miséricorde, n'est-ce pas? La seule porte à double entrée, on a fermé cette porte. C'était fermé aussi par le sultan Soliman, parce qu'il avait peur des incursions, des ennemis. Mais aussi, derrière l'incursion des ennemis, il avait peur que la prophétie se réalise. Voici, ton roi viendra à toi. Le germe. Et nous avons ce texte même dit par Jérémie, si on relit encore Jérémie. Il parle du germe, comme Ésaïe, dans les études bibliques, il nous parle de la croix, de celui qui va venir, le germe. Mais nous, on a reçu ce germe. Laissons-le grandir, qu'il devienne un arbre. Qu'il devienne un arbre, et que sous les branches, sous le feuillage, les oiseaux viennent se protéger. Que de choses à raconter. Et vous me connaissez un petit peu. C'était un côté est. Je n'avais pas le droit d'y aller. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le trottoir, j'ai vu cette porte dorée. Alors, j'ai été dans le cimetière, on avait le droit. On avait le droit d'aller dans le cimetière quand même. Mais j'étais plus loin que dans le cimetière. J'ai traversé le tas d'immondices qui rendait cette porte impure dans la pensée musulmane. Et j'ai touché ce mur en riant, mais Seigneur, quand tu vas revenir, il y aura une terre qui tremblera. C'est le retour de Jésus, c'est le moment où les jugements seront finis pour nous, Église. On passera par là d'abord. Mais une fois qu'on aura eu nos récompenses, on va pouvoir entrer avec toi. On va régner sur la terre d'une autre manière. Alors j'ai touché cette porte en disant, mais c'est ridicule d'avoir fait face à ce mur. Et tout d'un coup, j'ai entendu. Je ne comprenais rien, heureusement, mais je savais que j'étais en danger. Parce que j'avais osé non seulement marcher sur les tombes, impures, parce qu'il fallait marcher sur les tombes, blasphème. Mais j'avais aussi déplacé la petite grille du tas des mondices. Je ne vous conseille pas d'en faire autant, n'est-ce pas? Mais moi, à ce moment-là, j'étais rempli d'un zèle, d'un feu extraordinaire. C'était la parole en action. Et je vivais ça. Et j'intercédais pour les églises, j'intercédais pour mes amis. Seigneur, donne-moi la force de leur parler de la porte dorée, de leur montrer l'inutilité des religions. On ne peut pas bloquer la parole de Dieu. On ne peut jamais supprimer la Bible du début à la fin. Même s'il y a eu des discussions avec les églises d'Éthiopie, machin et truc, les textes qui sont deutérocanoniques ou pas deutérocanoniques, laissez tomber. Ça, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Je sers ta parole dans mon cœur, Seigneur. Alors, immédiatement, la police est venue, parce qu'ils surveillaient, hein, bien sûr. Mais en même temps, il y avait la police d'Israël qui est venue, c'était un accord entre eux. Alors, quand j'ai vu que les deux passaient un devant, un derrière, j'ai dit, ça va, je suis sauvé, quoi. Mais même si j'avais été en prison, qu'est-ce que le monde peut me faire à moi? je suis invincible. Et je me rappelle d'une chrétienne qui m'a dit un jour que je suis incassable. Bon, d'accord, aujourd'hui. Mais nous sommes incassables spirituellement. Cette certitude qui m'habite, cette autorité de la parole de Dieu que je peux proclamer sous l'onction de l'Esprit. Alors à ce moment-là, la police, surtout la police musulmane, arabe, m'a demandé, mais en anglais, un petit peu d'anglais, vous êtes quoi ? Alors je leur ai dit, ben, je suis français. Alors, ah, ça les a rassurés, j'étais pas quelqu'un qui allait faire un attentat. Après, ils m'ont libéré, mais je suis interdit d'Israël. Parce que sur le passeport, j'avais mis le tampon d'Israël. Alors j'ai demandé un autre passeport qui m'était donné, autorisé, et je peux maintenant retourner en Israël. Donc au bon moment, si le Seigneur le veut, j'y vais. Même si c'est dangereux. Même si c'est interdit. Si Dieu m'envoie, si j'ai l'autorité de la parole de Dieu, comme j'ai reçu l'autorité pour le voyage que je vais faire au Burkina Faso, je suis invincible. Que je vive, que je meure, c'est pour et avec le Seigneur. Amen.
Amen.
Je voudrais qu'on loue le Seigneur pour terminer. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, voilà. Vous avez raison, on peut se mettre debout. Tu nous mets le chant, s'il te plaît. Il est là. Bon, ça fait, si tu l'as, c'est bien. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie. Allez, on commence comme ça. Tu connais ? Tu connais ? Tu connais pas ? Eh ben, allez, on prend ça. Allez.
Je chante.
On a le cœur des femmes d'abord.
Je chante comme David. Je chante comme David.